Les infos choisies.
Chaque vendredi de 12h30 à 13h.
Sur Radio Galère à Marseille
et Ayoli Radio à Avignon.
Des infos.
Qui nous touchent.
Qui nous concernent.
Qui nous ressemblent.
Qui nous parlent.
Qui nous donnent de la force.
Qui nous font réagir.
C'est parti pour 30 minutes d'infos choisies. Bonjour. Et nous sommes le vendredi 7 mars 2025 et c'est parti pour, d'habitude c'est 12h30, aujourd'hui c'est 12h, une heure d'émission spéciale féministe.
Et bienvenue, nous sommes en direct sur Radio Régalère 88.4 et nous allons commencer notre émission par un petit édito.
C'est eux le problème, pas nous. C'est eux qui ont mis en place un système social et juridique fondé sur la détention de l'autorité par les hommes, à l'exclusion explicite des femmes, une autorité du patriarche sur les personnes dépendantes de lui, femmes, enfants, familles élargies et subordonnées. Il est le supérieur et l'universel, il est celui qu'on appelle plus communément maintenant le mec cis hétéro blanc. Et face à son règne, aux violences et tortures sexistes, raciste et homophobe qu'il a perpétué en tradition, il nous a fallu nous organiser et réagir. Il nous a fallu échapper au silence, se débattre, braver les interdits, avorter, dénoncer, sortir les couteaux, séduire, crier, se battre, renoncer, négocier, s'hystériser, chanter, rentrer dans l'histoire. Bref, lutter par tout un tas de stratégies pour notre autonomie, pour notre émancipation, pour nos libertés et pour nos droits. Ce n'est pas un, mais des féminismes. Ce sont des alliances face à un ennemi commun. Les féminismes s'opposent intrinsèquement à tout système de domination. Une condition de classe minorisée qui permet de comprendre et complexifier différentes oppressions qui peuvent être subies par une même personne. Alors ce matin, France Culture recevait Rokhaya Diallo pour son nouvel ouvrage « Dictionnaire amoureux du féminisme ». Aux infos choisies, nous accueillons deux collectifs antivalidistes féministes, les Dévalideuses et un collectif marseillais. Que de stars féministes présentes dans les grands médias à la veille du 8 mars.
Ça grimace.
Bienvenue sur ce plateau.
Bienvenue.
Bonjour.
Merci.
Merci, bonjour.
Jingle.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi
30. Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Un petit billet sur les féminismes et les extrêmes droites. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut préciser pour les auditeuristes, pas encore fidèles ou infidèles parce que les infos n'ont pas été présentes ces dernières semaines, que les infos choisies ont toujours été, depuis leur début de 2014, c'était les infos du vendredi midi 30, elles ont été féministes intersectionnelles, c'est-à-dire prenant en compte les questions de race, de genre, de classe, de validisme, de minorité, de sexualité et autres questions. Et pour ces infos spéciales féministes, moi, j'ai pensé au numéro de la Déferlante de septembre 2024, intitulé « Résister en féministe » et notamment sur la question de comment l'extrême droite s'empare des questions féministes et LGBT+. Et aussi, j'ai pensé à cet entretien avec Mathilde Blaisat qui a réalisé l'association ACT, Approche Culture et Territoire, dont je me suis beaucoup inspirée pour ce billet. Alors, en discutant avec plusieurs personnes de ce sujet, il m'est apparu à quel point il était complexe. À première vue, on peut trouver qu'il n'est plus trop d'actualité. parce que la déferlante actuelle, notamment avec l'arrivée de, enfin le retour de Trump aux USA, c'est plutôt celle du discours sexiste décomplexé, anti-woke. C'est plutôt les mascus, les incels, les red pills, tout ça bien qui prend de plus en plus de place de partout. Et j'ai un trou dans mon texte, je suis bien à l'arrache sur... Et oui, en effet, bon, de toute façon, ça ne date pas d'hier, cette idée des... sur la question féminisme et extrême droite et de comment elle s'empare de ces questions. Bon, on est d'accord que les féministes, enfin les extrêmes droites ne sont pas féministes, elles font semblant. Et ça ne date pas d'hier, et ce n'est pas cantonné à l'extrême droite, d'utiliser le féminisme pour tenir des discours racistes, xénophobes, suprémacistes, genre la bonne civilisation occidentale qui libère les femmes et partout ailleurs elles sont opprimées. On se souvient, à Alger, en 1958, on ne se souvient pas vraiment, c'est les archives filmiques qui nous font souvenir d'images de femmes qui se dévoilent heureuses. En fait, c'est l'armée et les autorités coloniales françaises qui ont fait de l'émancipation des femmes musulmanes un instrument pour tenter de rester au pouvoir en Algérie et qui ont mis en scène effectivement des Algériennes qui arrachent leur voile ou qui se font dévoiler par des femmes blondes et qui brûlent ces voiles. Les femmes participent à la dédiabolisation des extrêmes droites. Hein, on le voit avec Marine Le Pen, Giorgia Meloni en Italie, Alice Weidel en Allemagne. Ce sont des femmes qui prennent du pouvoir, des femmes blondes, blanches. Elles sont mères, parfois même lesbiennes. Mais bon, c'est privé, pas politique. Et donc, elles sont rassurantes. Il y a aussi, par exemple, Marine Le Pen qui a voté la constitutionnalisation de l'IVG. Ah oui, vraiment ? Ben oui, mais... Parce que, effectivement, ce trait commun qu'elles ont, c'est d'utiliser les questions féministes, toujours en faisant semblant, pour pouvoir accuser l'autre, l'étranger, l'immigré, le musulman, de sexisme. Parce que les questions premières des extrêmes droites, c'est les questions d'immigration, le racisme, l'islamophobie. Alors, on peut penser au terme fémonationalisme, homonationalisme, c'est utiliser la lutte contre le sexisme ou l'homophobie à des fins racistes. On l'a vu aussi en Israël, le drapeau LGBT aux couleurs arc-en-ciel porté par les soldats israéliens à Gaza. Voilà, en France, Marlène Schiappa, le féministe d'État, on n'a pas de problème de sexisme dans le culturel français. Ce sont les Arabes et les Noirs qui amènent le sexisme. Bref, ce qui est complètement faux en termes de statistiques de violences faites aux femmes. Alors, ça se bouscule dans l'actualité parce que la manif de féministes radicales à Paris, qui devait avoir lieu ce soir, a été interdite par le ministre de l'Intérieur et c'est encore et à Toulouse aussi, on nous dit dans le studio. Eh ben dis donc, ouais. Sous prétexte, c'est encore une fois la Palestine, c'est interdit de manifester en soutien au peuple palestinien et gazaoui. En contrepartie, à Marseille et aussi à Paris et peut-être dans d'autres endroits, à Nice, il y a le collectif Nous Vivrons qui va manifester sur le Vieux-Port 8 mars. En soutien aux femmes juives.
Qui est un collectif d'extrême droite sioniste, qui est fascisant, en soutien au gouvernement d'extrême droite israélien, qui se dit comme... qui utilise les luttes féministes.
Voilà, donc, c'est ça. Finalement, c'est vraiment d'actualité. On est en plein dedans et... les questions, c'est voilà, comment on résiste en féministe et comment on aligne nos combats. Alors face à la déferlante d'extrême droite et de fachos, comment on allie les combats, comment on crée des confluences. Voilà.
Merci.
Allez, on s'écoute un petit son éther d'éther de Mauve.
Mmh. j'attache le patriarche, avachi pour qu'il ravale sa pharmacie. Éradiquant ce ramassis, un missiborg, gros bouton, la machine, on reprend le pouvoir, ça va chier. Notre œuf est loin de se rassasier, et trop de branches assis, et des hautes fers, trop des châssis, et pédos et violeurs gracie, et même remercie, et c'est hard comme au César. On se lève, on se casse, votre monde est dégueulasse. Tellement de bolosses dans la mollesse pour peu de godesses qui ont l'audace, ça va finir à coup d'audace. On conne des sangles cool, on est des sangles au cou, on porte des sangles au cou et on assure beaucoup. On sort la sarbacane, bientôt t'es surbooké, non c'est pas des sarcasmes, attention patriarcat, on va te péter l'arcade, c'est ce qu'on prédit les arcanes. Faut les faire taire aussi, tous ces hétérosis qui est déterre, envoie son 06. Regarde les jouets, les héros aussi. Ils prennent des airs hostiles, mais ils sont zéro style. Les terreaux blancs s'y somment, cette hydre fut comme un édifice énorme. Souris ça à la norme, hein, ces gens fondraient les terres. Tabots sont délétères, c'est soit ils ne font air, soit ils en font des tonnes. Les terreaux blancs s'y somment, cette hydre fut comme un édifice énorme. Souris ça à la norme, ces gens fondraient les terres. Tabots sont délétères, soit ils sont délétères, soit ils brassent de l'éther.
Alors, ça n'a pas été facile d'écrire cette chronique. Je vais commencer par situer d'où je parle. Je suis une femme de parents algériens et aujourd'hui, je parle de ma place d'écoutante pour un numéro vert qui s'appelle « Sexualité, contraception, avortement ». Je fais un peu de pub, c'est le 0800 08 11 11 et sur lequel nous accueillons des personnes victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. C'est de cet endroit qu'aujourd'hui je m'interroge sur le traitement médiatique des faits de violences physiques, psychologiques et sexuelles de masse qui se sont enchaînés ces derniers mois. Et là, je parle du procès de Dominique Pellicot, de celui qui a lieu en ce moment de Joël Le Souarnec, et ceux carrément organisés par les institutions, Bétaram, Carraison, Stanislas, des histoires dont on ne compte plus les victimes, des histoires dans lesquelles les agresseurs prennent autant de place que des dizaines et des dizaines de victimes, des histoires tournées vers le scandale, celui d'actes individuels dont toute une société se dédouane en les pointant du doigt, comme pour ne pas regarder ce qu'il se passe pour chacun de nous. Une stratégie basée sur le scandale et la répression. Tout le monde y va de son effarement, de sa surprise, à friser l'indécence. On se croirait sur la place de grève où l'on attend celui qui se fera guillotiner dans une mise en scène destinée à nous rappeler de ne pas se faire prendre. Mais surtout, destinée à nous faire détourner le regard de ce qui a amené ces hommes à commettre des horreurs et à exercer la violence impunément. Alors je me questionne et je me demande ce qu'il en est des EVARS, ces programmes mis en place par des associations féministes qui sensibilisent les enfants et les adolescents à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Ces programmes qui permettent aux intervenants et aux intervenantes de dépister les violences qu'ils et elles subissent à la maison, à l'école, dans leurs activités extrascolaires, à l'hôpital ou dans les administrations. Ces programmes, décriés par les droites et les extrêmes droites pour qu'on n'aille pas fouiller dans leurs histoires sordides, protégés par leurs institutions basées sur l'ordre et la soumission. Ces programmes, qu'ils appellent, eux, théorie du genre, pour ne pas dire que nous réfléchissons à l'étude du genre, qui mettent en danger leur système de domination, dont ils profitent au détriment de la santé et de la sécurité de leurs propres enfants et de toute une société. Qu'en est-il de ces démarches féministes qui écoutent dans les espaces fermés, qui accompagnent dans le soin et qui dénoncent pour que cela change, mais pour que cela change vraiment? C'est pour cette raison que cela n'a pas été facile de faire cette chronique. Comment dire qu'il est nécessaire de protéger les victimes en enfermant ces ordures alors que je suis contre les prisons? Comment dire qu'il est nécessaire de reconnaître devant les tribunaux les violences que subissent les victimes quand ces histoires terribles ont été tues et niées, alors que la justice ne suffit pas à ce que ça ne se reproduise plus. Comment dire que nous ne pouvons pas nous contenter de procès médiatiques pour nous guérir des maux du patriarcat? Alors, je me tourne vers ma collègue et ma future collègue sur le plateau et je leur dis qu'on ne va pas lâcher. Et là, je me tourne vers mes compagnons et mes compagnonnes dans le studio et je leur dis qu'on va y arriver ensemble.
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est la bonne.
Les infos choisies, vendredi, 12h30.
Salut tout le monde. Aujourd'hui, moi j'avais envie de revenir sur une chat qui a eu lieu à la DAR en février. Queer des terres, mais un peu flippé contre la tôle. Cette discussion elle avait pour but de causer du rapport à l'enfermement, à la répression d'un point de vue anticarcéral et de personnes queer. Donc trans, non-binaires, bi, PD, gwyn, en questionnement, mais aussi les personnes trans, les personnes proches, pardon, car lutter contre les prisons, c'est pas dissociable de lutte contre le cis-hétéropatriarcat et contre toutes les oppressions systémiques. Cette discussion elle a aussi tourné autour de comment vit-on en tant que personne queer ou en questionnement les interactions avec les keufs, l'expérience d'une garde à vue, ou plus généralement la peur de l'enfermement, donc judiciaire, psy ou même la tôle, et comment on réagit et soutient quand on est une personne proche, parce qu'en parler, ça se donne de la force collectivement, et c'est une manière d'y résister. En tant que personne proche, moi aujourd'hui, j'avais envie de vous transmettre quelques petites choses qui se sont dites et des conseils pratiques, surtout par rapport à la garde à vue. Je mets quand même un petit point d'intention, parce qu'il y a des récits et des exemples qui évoquent de la transphobie et de la queerphobie, donc c'est pas toujours facile. Ça va durer 5-7 minutes, donc si vous vous sentez pas d'écouter, c'est complètement ok et c'est possible de faire une petite pause à l'écoute de l'émission. Cœur sur vous l'équipe, prenez soin de vous. Les premières questions qui sont sorties de la discute, c'est un peu dans l'enfermement et le rapport au keuf, qu'est-ce qu'on montre en termes de genre et de sexualité et à quel moment on le fait, à quel moment on s'assigne, on se genre ou on se réassigne. C'est rare que sortir des normes de genre te protège face aux flics en vrai, mais parfois ça les fait aussi bugger. On a des exemples de contrôle de la BAC en extérieur où, en gros, les camarades, leur fouille s'arrête parce que le BACE a un doute sur le genre et du coup, il bug. Alors, en vrai, dès le contrôle en extérieur, on peut faire planer collectivement le doute, faire bugger des flics dès le départ. Et parfois, le doute, il va même pousser à ignorer la personne parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques ou se galérer. Ensuite, on a pas mal parlé d'être au comico. Donc, il y a des exemples chouettes de groupes arrêtés ensemble où les flics ont eu bien du mal à insérer les potes dans leur schéma binaire. Par exemple, une fois où des identités plus ou moins genrées sont données à l'oral, alors ça fout le zbeul dans les cases de la police. Et au final, personne trans ou pas, il y a personne qui est genré deux fois de la même manière dans les procès-verbaux. Mais ce qu'on a constaté aussi, c'est que souvent, être identifié comme déviant, déviante de genre, bah, ça donne des situations où il y a plus de pression, comme être interrogé et pris pour cible parce qu'ils n'arrivent pas à te caser dans le genre. Et il y a cet exemple de copains qui subissent 1000 questions pendant des heures autour de leur genre parce que les flics bug et veulent absolument savoir. Ou encore un copain trans qui passe les premières heures de sa gave à l'isolement dans les chiottes sans lumière parce que les flics se sont mis en tête que c'est une personne transfemme. Bon, là, les potes ont une super réaction. Ils ont tapé sur les grilles et gueulé « Rendez-nous X !» et ils ont fini par récupérer le pote. Donc ça, c'est chouette. On s'est aussi questionné pas mal sur la fouille en garde à vue et on s'est demandé un peu c'était quoi la législation exacte. Bon, il faut encore qu'on aille vérifier, du coup, parce que le genre, c'est un gros moyen de chantage et de pression pour les flics. Et sur la fouille, on se rend compte qu'ils sont hyper focus sur les génitaux, à vouloir savoir ce qu'il y a entre les jambes. Et il y a cette expérience de gaffe, par exemple, vraiment pas cool, où une copaine trans, les flics mettent grave la pression en mode « Si t'es fouillée par un mec et que t'es une meuf, bah tu peux porter plainte, mais si t'es fouillée par une meuf et qu'on découvre que t'es un mec, alors c'est nous qui portons plainte. » Donc on se demande un peu, il y a quoi, s'il y a erreur, est-ce que ça peut créer un vice de procédure, ou ce serait quoi les conséquences d'une erreur selon les flics? En vrai, dans la législation, les flics ils sont censés se baser sur le genre, sur la carte d'identité, donc ton genre à l'état civil. Mais on s'est bien rendu compte que, voilà, encore une fois, dans les faits, c'est pas du tout ça, c'est plutôt les génitaux et ton apparence. Et normalement, depuis décembre 2019, les OPJ, ils ont accès aux fichiers de changement d'état civil, donc les officiers de police judiciaire. Donc toutes les personnes qui auraient changé de genre à l'état civil depuis décembre 2019 sont dans ce fichier. Ça pose encore une nouvelle question, c'est celle d'avoir ses papelards ou pas. Parce que si t'as tes papelards, ok, mais si tu les as pas, comment tu gères? Par exemple, si t'as tes papiers et qu'ils continuent à te poser plein de questions, tu peux juste faire la technique du perroquet où tu répètes « Vous avez mes papiers ». Mais on a quand même des exemples où des fois les flics, même avec les papiers, ils sont trop énervants, quoi. Et si tu les as pas, ça pose un peu la question de comment faire. D'où l'importance du soutien collectif aux comicos et de se voir en groupe. De se voir comme un groupe qui fait face aux flics, ensemble, et de faire collectivement planer le doute, de pas déclarer son genre, de pas se réassigner si les flics te mégenrent. On a aussi beaucoup parlé de la mise en cellule, où il y a aussi un gros enjeu collectif, ça devient un moyen de pression et de chantage, genre « Ah, si tu donnes pas ton genre, on saura où... Si tu donnes ton genre, on sait où te mettre, et on pourra peut-être te mettre avec tes copines. » Mais en vrai, bon, juste pour la forme, je le rappelle, mais les flics, ça mytho tout le temps. Alors ça vaut le coup de sortir de ces situations de face à face et d'exiger d'être mises tous ensemble pour se soutenir et résister à ce genre de chantage. Et le fait d'être en cellule ensemble, ça permet de gérer collectivement les trucs sur le genre, mais aussi de refuser les prises d'empreintes, d'anticiper les déferments, les interrogatoires et tout et tout. Voilà, en tout cas, on capte bien que le genre, c'est vraiment de la merde et que au comico, face aux flics et à l'enfermement, ça devient un moyen de pression supplémentaire, un levier de pouvoir et de violence dont les flics, évidemment, se saisissent souvent allègrement. Juste pour refaire un petit point sur les stratégies, pensez la défense collectivement et pas individuellement pour ne pas laisser les copains être prises pour cible et se défendre ensemble, ne pas déclarer son genre, tenter les stratégies de confusion où on fait planer le doute. Échanger les fringues, filer des prénoms neutres, pas se réassigner si les flics te mégenrent. Et enfin, réagir collectivement et exiger d'être ensemble en cellule. J'ai pas parlé de la tôle, mais ça nous a aussi posé 1000 questions. Il y a plein de questions qui s'ouvrent sur ce sujet-là. Et je vous invite à écouter l'émission anticarcérale des copains de Carapatage, l'épisode Transidentité en prison. Voilà, tout ça, ça nous pose plein de questions et de choses à discuter entre nous en amont avec nos copains, prendre le temps de parler des stratégies, de scénarios, de nos peurs. C'est un moyen de résister ensemble face à la répression et de se préparer à l'avance, même si on n'est jamais vraiment prêt quand ça arrive et ça, c'est ok, on fait de notre mieux. Cœur sur vous et vos copains, soutien à nos camarades trans qui sont en tôle, vive la défense collective et enfin, on n'oublie pas, les flics, ça mytho et en garde à vue, on n'a rien à déclarer. Bisous!
Merci beaucoup à la camarade de nous avoir envoyé ce son à distance. Donc là, on va s'écouter Bija Preta par Linda Rada avant d'enchaîner sur une interview dont parle les copains nombreux nombreuses dans le studio.
Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada. Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar, é pra fuder. Que bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tomba, fecha a causa. Elas é muita lacração. Mas tá aqui. Não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. O chão. O chão. O chão, 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 chão. Bicha preta. Tra, tra, tra. Bicha preta. Tra, 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 tra. Bicha preta. Tra, tra, tra. Bicha preta. A minha pele preta é meu manto de coragem. Impulsiona o movimento e vai, desce a viadagem. Vai, desce, 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 desce a viadagem. Borralheira com um quê de chinerela. Eu saio de salto alto, maquiada na favela. Mas se liga, macho, presta muita atenção.
senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada, que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira, eu vou botar...
Bienvenue.
Bonjour.
Bonjour. Alors, bienvenue au collectif des personnes concernées par les maladies chroniques de Marseille. Enfin, c'est pas les maladies qui sont de Marseille, c'est le collectif. Et le collectif des dévalideuses.
Bonjour.
Bonjour. Donc, je vous laisse vous présenter comme vous le souhaitez.
Alors, moi, je m'appelle Mathilde. Je fais partie du collectif Les Dévalideuses. On a dit qu'on se situait pour dire d'où on parlait. Donc, je suis une femme blanche, malade chronique aussi, il s'avère. Mais je suis là pour vous parler vraiment des dévalideuses au sens... C'est un collectif handi, féministe, qui s'est constitué en constatant que les enjeux spécifiques rencontrés par les minorités de genre handi étaient peu représentés dans... les luttes et les sphères féministes. Et voilà, donc on a plein de manières de s'organiser. Mais moi, ah oui, on a dit d'où on parle. Bah, je dirais que je suis une femme blanche bipède.
Merci beaucoup, Mathilde.
Moi, c'est Raphaël.
Moi, c'est Tamsine.
Et moi, c'est Mélanie.
Et du coup, nous, on est trois personnes, on est trois femmes et personnes non binaires, blanches, concernées par les maladies chroniques.
Merci pour vos présentations. Donc, peut-être qu'on vous a invité aujourd'hui pour... Enfin, vous inviter. On vous a invité, si on vous a invité, pour essayer de faire un point sur ce qu'on ne nomme pas dans nos collectifs de lutte féministe. Et entre autres, la question du validisme, la question du handicap. Et on voulait...
commencer par vous demander, dans les deux collectifs, qu'est-ce qui a fait que vous êtes rencontrés et qui a fait créer le collectif.
Ouais, pour la genèse des dévalideuses, je vous ai un peu dit, c'est-à-dire... En fait, les dévalideuses, on fonctionne tout en dématérialisé. C'est-à-dire, on fait tout en numérique... ce qui fait qu'au début, je pense que c'était en 2019, peut-être après une marche contre les violences sexuelles de novembre, il y a Céline Extinso, qui est une militante anti-validiste assez visible et connue depuis longtemps, elle est militante depuis 20 ans, qui a écrit sur, je pense que c'était sur Twitter à l'époque, « Wesh, qui c'est qui est énervé comme moi ?» Et il y a plein de monde qui a répondu et de là... c'est constitué un collectif. Et en même temps, maintenant, là, en 2025, le collectif, il a muté progressivement. Globalement, moi, j'ai rejoint les dévalideuses il y a un an et demi à l'occasion d'une action de désobéissance civile qu'on a organisée à Paris. On a bloqué le métro des Invalides parce que déjà, c'était très marrant de dire les dévalideuses bloquent Invalides. Moi, je pensais qu'avec une blague pareille, on allait faire la une de tous les journaux. Bon, c'est pas, ils n'ont pas exactement été à la hauteur de mes espérances, mais c'était un moment où ils recrutaient un peu large des personnes qui avaient un peu une habitude militante pour faire de la désob, parce qu'en fait, faire de la désob quand t'es handi, c'est 100 fois plus compliqué que la désob quand t'es valide. Et donc, voilà, donc c'est comme ça que moi, j'ai rejoint le collectif. Bah, le collectif est ouvert, hein, tout le monde peut venir. Si ça se trouve, quelqu'un dira dans un an, je vous ai rencontré sur Radio Galère.
Et... Et pour vous, camarade marseillaise ?
Alors, pour nous, en fait, ça a été un mail qui a été envoyé sur une liste féministe de Marseille en disant est-ce qu'il y a des personnes concernées par la maladie chronique qui aimeraient qu'on discute, quoi. Donc, il y a eu un petit groupe de créés, mais vraiment par téléphone. Et c'était il y a 2 ans. Et c'était vraiment un groupe qui était surtout consacré à se demander des contacts de praticiens, des conseils en termes de soins ou des questions administratives liées à la maladie. Voilà, et après, il y a de ça des accointances, des envies d'action qui se sont créées et qui ont donné naissance à certaines actions comme la soirée lecture à Transit ou l'action au cinéma. Mais voilà, ça, on en parlera après.
Merci. Si tu veux rajouter quelque chose.
Non, c'était juste pour un peu plus spécifier ce que c'était la soirée à Transit et l'action. Je ne sais pas si on le fait maintenant.
Ouais. Tout à fait, c'est super, merci.
Et c'est que déjà dans ce groupe, à un moment, on s'est proposé de faire des petits ateliers d'écriture entre nous. Et après, on s'est dit que ça serait assez charmé de pouvoir lire ces textes face à un public. Et puis, un peu en même temps, il y a Transit qui avait une envie de faire un rayon sur le validisme. Et du coup, on s'est saisi de ça, en sachant qu'il n'existe pas encore ce rayon validisme, mais on s'est dit qu'on faisait quand même cette soirée parce que entre nous, on avait tendance à dire si on attend qu'il y ait un rayon validisme, en fait, on ne fera jamais rien.
Juste, Mélanie précisait que Transit, c'est une librairie, donc c'est un rayon de livres sur le validisme.
T'as raison, Transit,
c'est un rayon de librairie. Chips, je suis déçue.
C'est une librairie à Marseille. Et qui est pareil, c'est pas un lieu accessible totalement aux personnes handicapées. Et pareil, c'était pas satisfaisant pour nous, mais une fois de plus, il y avait un truc de c'est pas l'urgence, mais là, on a envie quand même de faire exister nos existences. Et donc, on fait de notre mieux et tant pis, on va aller dans cette librairie, même si elle n'est pas complètement accessible. Du coup, il y a eu ça, c'était il y a deux semaines, le 21 février, le vendredi soir. Et on a vu à quel point c'était pertinent de faire cette soirée parce qu'il y a eu énormément de monde à venir. Et du coup, on a lu des textes. Il y a des personnes dans le public qui sont venues aussi avec des textes et qui ont aussi lu et partagé leur vécu. Et le lendemain, en fait, on a fait une action dans un cinéma à Marseille. On a invité largement, du coup, on était une cinquantaine de personnes, des personnes concernées et des personnes non concernées. Et encore, c'est même compliqué de dire non concerné parce qu'en fait, on est debout et en fait, on ne voit pas parce que le handicap, à 80%, il est invisible aussi. Donc, on ne connaissait pas toutes les personnes qui étaient à cette action. Et donc, certainement que quand je dis non concerné, il y avait sans doute plein de personnes qui le sont. Et du coup, on est allé dans ce cinéma parce qu'il y a eu un acte validiste assez grave qui s'est passé dans ce cinéma et on avait envie de dire haut et fort ce qui s'était passé ici, qu'il y avait eu de la violence, mais ça aurait pu être à un autre endroit. Enfin, et ça aurait pu être partout ailleurs, puisque partout ailleurs, il y a de la violence. Et voilà, l'action, ça, c'était le samedi soir.
Peut-être on peut définir validisme.
Merci.
Le validisme, c'est un système socio-culturel, économique, organisationnel, qui hiérarchise les vies au regard des capacités. C'est-à-dire, d'ailleurs, en anglais, on dit ableism, et une des traductions françaises, c'est capacitisme. Et là, on retrouve bien la racine de capacité. Et donc, c'est une discrimination, comme le racisme, le sexisme. C'est une discrimination qui va se traduire de plein de formes différentes, qui va se traduire par des petites agressions verbales au quotidien. Donc, les gens qui disent « Ah, mais moi, si j'étais dans ta situation, sous-entendu si j'étais en fauteuil ou si j'étais malade comme toi, je me suiciderais. » Donc, il y a plein de... Là, il y a des petites choses comme ça au quotidien. Ou bien la psychophobie du vocabulaire, quand on dit « Mais le gouvernement est devenu schizophrène » pour dire « Le gouvernement fait des choses contradictoires », ça, c'est aussi psychophobe parce que tous les schizophrènes prennent un stéréotype de plus associé à leur diagnostic. Et après, il y a la discrimination beaucoup plus organisationnelle, comme par exemple le fait que le monde du travail est archi inaccessible. Typiquement, moi, j'ai un handicap... j'allais dire de type énergétique, mais ça fait un peu magique, donc non. J'ai un handicap qui fait que je suis crevée et qui fait que je trouve que les journées de 24 heures, on est censé bosser 12 heures et dormir 8, c'est pas du tout... Enfin, moi, il me faut plutôt l'inverse, quoi. Et donc, typiquement, ça, notre société, on s'organise pas pour rendre l'organisation du travail accessible. Et ça va être aussi toute l'inaccessibilité pour les personnes à mobilité réduite des bâtiments... Alors que la loi de 2005, dont on fête les 20 ans, promettait 100% d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les établissements accueillants du public. Et aujourd'hui, il n'y en a pas la moitié. C'est-à-dire qu'on est 20 ans plus tard et pas la moitié n'a été atteinte. Donc ça, c'est du validisme. C'est les conséquences du validisme. C'est-à-dire qu'on hiérarchise les vies. Donc en fait, il y a des morts qui sont plus acceptables que d'autres. Il y a le fait de ne pas accéder à ses droits, c'est plus acceptable pour des personnes handicapées que pour des personnes valides. Donc c'est ça. Et donc le validisme prend plein de formes, multiples et joyeuses. Contre lesquels, voilà, on lutte.
Mais du coup, merci pour cette définition, parce que celle qui viendrait juste après, c'est qu'est-ce qu'une lutte anti-validiste ?
Carrément, on vous en a donné déjà. pas mal quelques exemples, hein, mine de rien, vous avez raconté plein de trucs. Quand vous dites on fait une soirée de lecture dans la librairie où on fait une action, bah, en fait, je dirais que, en tout cas, des valideuses, voilà comment on a les piliers de notre travail, et ça rejoint ce que vous avez raconté. On a un volet de notre travail qui consiste à déjà produire de la, on va dire, de la connaissance. Donc concrètement, les luttes antivalidistes anglo-saxonnes, elles vont s'appeler les disability studies. Donc il y a plein de choses en anglais parce que c'est un champ universitaire, un peu comme le féminisme. Donc il y a un peu un travail de traduction en français et ensuite traduction en français compréhensible parce que ça reste du langage universitaire. Donc il y a ça, c'est produire beaucoup de contenu pour expliquer aussi ce que c'est le validisme, parce que juste nous, on a des objectifs, travail pas crête. Hein. Si déjà tout le monde pouvait connaître le mot, ce serait pas mal. Donc, créer beaucoup de contenu, de matière. Donc, visibiliser nos histoires aussi, comme ce que vous avez fait en lisant. Parce qu'à la soirée, à la librairie, il y avait plein de témoignages aussi. Et c'est très puissant. C'est-à-dire raconter les histoires et valoriser aussi le savoir expérientiel. Donc, dire ce que tu as vécu, toi, individuellement, c'est aussi important qu'un texte universitaire. Ça a la même valeur. Constituer de la communauté, on va dire, c'est un deuxième pilier. Donc là, typiquement, dire, venez, on se retrouve, comme à la librairie Transit, on se retrouve, on fait groupe. Nous, aux Dévalideuses, si vous adhérez aux Dévalideuses, vous accédez à un Discord, qui est un espace numérique sur lequel tout le monde est bienvenu, toutes les personnes qui se retrouvent dans nos valeurs antifalidistes, les valides et les handis. Hein. Et tant que vous ne dites pas des énormités discriminantes, on ne vous sort pas. Et donc là, c'est un espace où les gens s'auto-organisent. Nous, le Discord, on a un cadre et une charte, mais il y a des gens qui ont créé un groupe de cinéma, il y a des gens qui se retrouvent pour faire des goûters, ça se gère, quoi. Donc c'est ça, créer de la connaissance, constituer de la communauté. Et le troisième, moi, je dirais, c'est faire du plaidoyer. Et aux Dévalideuses, plaidoyer, ça veut dire... moi, je dis lobbying, mais les gens, ils n'aiment pas, ils trouvent que c'est trop négatif. Mais non, c'est défendre ses intérêts. Genre juste, on a moins de sous que Nestlé, mais... Et ben, le plaidoyer, c'est plus dire comment est-ce qu'on fait pour que les programmes politiques prennent en compte nos enjeux, comment est-ce qu'on fait pour que les médias parlent de validisme. Et par exemple, nous, quand on a bloqué aux Dévalideuses, quand on a bloqué le métro invalide, notre objectif, c'était de dire le métro parisien, il n'y a que 10% des stations accessibles PMR. Et la France, en fait, c'est inaccessible. Et tout ça, c'est du validisme. Bon, le traitement médiatique, genre France 2, ils sont restés bloqués à... Vous vous rendez compte, les ascenseurs sont souvent cassés à Paris. Hein. Et ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile de les obliger à utiliser nos mots, à utiliser notre approche. Et donc ça, typiquement, le plaidoyer, par exemple, typiquement, un des objectifs dont on a besoin, là, c'est passer d'une formulation du handicap comme un problème médical, du style, vous êtes malade et on doit vous soigner pour vous ramener à une norme de valide. Il faut passer de ce modèle médical au modèle social. C'est-à-dire, en fait, non, on a un problème organisationnel. Je ne peux pas aller à cette réunion parce qu'il n'y a pas de rampe et que je suis en fauteuil. Mon problème, ce n'est pas d'être en fauteuil. Mon problème, c'est qu'il n'y a pas de rampe. Et ça, c'est un énorme chantier. Je voulais résumer en une minute, mais c'est un énorme chantier.
Donc, les difficultés liées à l'accès, beaucoup. Est-ce que vous avez constaté, vous aussi, en tout cas sur Marseille, parce que merci pour ce témoignage. Marseille, on ne peut pas dire que ce soit la ville la plus... adaptés, ou en tout cas, au-delà d'adapter, parce que c'est pas forcément un bon mot d'ailleurs, mais en tout cas, qui va juste prendre en compte tout le monde.
Oui, clairement, nous, quand on a organisé cette action au cinéma, on s'est retrouvés à partager, en fait, nos réalités, du coup, de qu'est-ce que c'est le quotidien quand on galère à faire la queue, quand on galère à marcher, et toutes les petites réactions de tout un tas de gens. Qu'on s'imaginerait pas, je pense, quand on est valide, enfin, pour avoir été valide, je pense que je me représentais pas que quand on se met dans une queue, par exemple, qui est prioritaire pour les personnes handicapées, il peut y avoir des gens qui t'agressent et qui t'accusent de faire semblant d'être handicapé pour passer devant tout le monde. Enfin voilà, on s'est raconté tout un tas d'histoires et ça nous a d'un coup, le fait de partager des vécus, ça a vraiment créé quelque chose entre nous d'assez fort, de se dire « Ouah, et là, en fait, on va aller bloquer des caisses à l'heure de pointe d'un cinéma, du centre-ville, et en fait, on va rendre cette violence-là, on va visibiliser cette violence-là, parce que sinon, on est toujours tout seul face à ces propos, face à ces personnes qui se garent de manière à ce qu'on puisse pas circuler, etc. Et en fait, quand on est tout seul, c'est hyper dur, en fait, de réagir, et du coup, il faut se trouver des occasions de réaction collective. Par rapport aux luttes aussi, pour donner un exemple, là, il y a la manif du 8 mars. On était un certain nombre de personnes, personnes handicapées à avoir envie de participer à cette manif. Et on s'est dit, on va essayer quand même de se mettre en lien avec l'orga. On n'a pas l'énergie, nous, en tant que malades, d'organiser en entier cette manif, qui est un gros machin. Mais par contre, on va quand même essayer de leur souffler à l'oreille un peu des petits tips pour que ce soit accessible. Et du coup, ça peut être des choses qu'on peut faire. Après, on peut vous raconter aussi les ratés de ce genre de choses.
Oui, ça nous intéresse.
Oui, juste, je rajouterais aussi, parce qu'en fait, quand on est concerné par des maladies chroniques ou des maladies ou des handicaps, en fait, c'est hyper laborieux de s'organiser parce qu'en fait, on est empêché par l'état de nos corps qui est fluctuant. Et que du coup, on a aussi besoin d'être entouré et soutenu par des personnes qui sont moins concernées ou en tous les cas qui ont la patate pour aussi organiser des trucs. Et, ou alors rendre plus accessibles des lieux militants. Sur Marseille, en vrai, on a compté, il n'y a quasi pas de lieux militants qui sont accessibles complètement aux personnes malades et handicapées. Du coup, il y a après ce truc de « allez-y, s'il vous plaît, faites des chantiers pour les toilettes, cassez les marches. » Et nous, on ne peut pas faire ça, en fait. Du coup, on a aussi beaucoup besoin que ça soit une lutte qui soit... qui rende curieuses les personnes autour de nous pour pouvoir faire ensemble, en fait. Parce que je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est compliqué de rendre visible... nos existences, c'est parce que nos existences, elles sont déjà archi dures. Donc, de lutter en plus, c'est compliqué, quoi. Ou alors, il faut inventer d'autres manières de lutter. Moi, par exemple, individuellement, je n'ai pas fait de manif depuis plus d'un an. Et en fait, ça me rend hyper triste à des endroits. Et à la fois, j'ai accepté aussi cette frustration et je fais différemment, comme là, ce qu'on a fait... en termes d'action et puis d'événements là à la librairie. Mais voilà, on a aussi besoin d'être soutenus.
J'avais une question, si ça va, de rajouter ça. En fait, par rapport à ce que vous dites, j'ai l'impression que aussi, quelles sont les stratégies que vous voyez pour prendre mieux en compte les difficultés donc physiques et psy dans nos groupes aussi, dans nos soirées militantes, tu as parlé des espaces qui ne sont pas accessibles sur les marches. Mais je trouve qu'on pourrait rentrer dans les détails parce qu'il y a pas mal de trucs. Récemment, j'étais à des réunions, on a refait tout le planning pour qu'il y ait beaucoup plus de pauses. Et j'imagine que vous avez plein de tips comme ça. Et du coup, je me dis que c'est hyper important de donner un peu des choses qui peuvent être faites et des idées de choses qui peuvent être... mis en place, parce que quand on est valide, justement, on n'a pas besoin de faire de pause, du coup on fait une réunion de 3 heures, alors que faire une pause toutes les heures et demie, c'est une base qu'on peut appliquer au groupe et ça change vachement la dynamique aussi de la journée.
C'est cool de dire des questions très concrètes, effectivement. Avec les dévalideuses, un des premiers projets, moi j'étais pas encore là, ça a été de créer justement un guide pour accessibiliser des événements au sens très large du terme. Et bon, là, il n'est plus en ligne parce qu'on est en train de le refaire. Mais je peux vous en donner 2-3 axes. Par exemple, le premier truc, c'est de penser que l'accessibilité, c'est plein de choses différentes. Donc l'accessibilité, c'est avec l'accessibilité personne à mobilité réduite. Donc là, c'est, comme tu disais, péter les marches, créer des rampes. D'ailleurs, tu parlais de raté, je vais vous en raconter un très bien. On a organisé une soirée Creep and Queer, ça veut dire... queer, vous savez, mais creep, c'est les handis, fiers de l'être, c'est pareil, c'est le retournement du stigmate comme queer. Et donc, il y avait une scène, et nous, on avait fait une programmation 100% handis, de show, de drag show et tout. Et il y avait une scène vachement haute, genre quasiment 1 mètre de haut. Et on bossait avec un collectif de lesbiennes valides qui était vraiment, heureusement, qui était là pour nous aider, heureusement, parce que nous, à 21h, on disait, pourquoi on fait une soirée, on voudrait être au lit. Donc, c'était bien d'avoir des valides pour bosser avec nous. Et elles nous ont dit, mais vas-y, on vous construit une rampe, parce qu'il n'y a pas de rampe. La salle était accessible, mais la scène ne l'était pas. Mmh. Ça te parle de ce qu'on se raconte. C'est-à-dire, à la limite, le public peut être en fauteuil, mais alors les artistes, jamais de la vie, quoi. Et donc, elles ont voulu nous construire une rampe et elles ont fait leur calcul, tu sais, sinus, cosinus, truc. Et là, elles nous ont dit, la rampe, parce qu'il y a une... tu peux pas faire une rampe trop pentue. Sinon, c'est plus une rampe, ça marche pas. Tu peux pas monter en fauteuil, c'est trop dangereux. Et bien, la rampe, elle faisait 35 mètres de long. Donc elles n'ont pas construite. Et alors qu'à la base, elles étaient là, on va faire un atelier bric-au-bouche, la rampe, on vous l'a fait, hop, 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 c'est trop bien, tu vois. Et donc voilà, ça c'est un raté. Donc on a loué une plateforme qui nous a coûté 1000 euros et on aurait bien suggéré à la salle de l'acheter pour les prochaines. Mais ils ont dit, bah non, vous n'allez pas en refaire des soirées. Bon, anyway, en tout cas, il y a cette question de l'accessibilité très matérielle. Il y a la question de l'accessibilité pour sensorielle. Donc, par exemple, créer des coins calmes quand tu fais une soirée pour toutes les personnes qui ont besoin de, comme moi, qui ont besoin de faire des crises de temps en temps, des crises de douleur, des crises autistiques, et donc qui ont besoin d'un endroit de sécurité pour lequel ils peuvent se récupérer et après revenir à la soirée. Ça change tout d'avoir un coin où tu peux être vulnérable, en fait. Ça va être organisationnel, ce que tu disais, pour dire, bah, en fait... on ne peut pas faire des réunions de 3 heures. Ça, on va appeler ça le creep time. C'est vraiment tout un truc sur comment tu gères tes dépenses d'énergie, comment tu segmentes ton effort. Nous, au Dévalideuse, on ne fait pas plus d'une heure et demie les réunions et encore une heure et demie, on est cuite, quoi. On fait max une heure. Ça va être aussi de l'ordre... En fait, ce n'est pas qu'une question de l'espace, il faut qu'il soit parfaitement accessible. C'est les gens, il faut qu'ils soient formés. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire qu'il y a une personne qui est en charge de l'accessibilité et les autres, vous n'y pensez pas. Parce que quand tu viens... Quand bien même tout serait PMR accessible, et par exemple, s'il y a des gens qui sont à l'accueil, ben, tu peux avoir plein de micro-agressions validistes, du genre, t'es en fauteuil, on a une copine, il s'est passé ça, un lieu très accessible, elle y allait, et la nana qui faisait la sécurité du parking, comme elle était en voiture et qu'elle conduisait, elle lui a dit, bah non, tu peux pas aller te garer sur les places PMR, parce que si tu conduis, t'es pas handicapé. Alors que notre pote, bah, elle descend de sa voiture, elle sort son fauteuil, et après, elle est en fauteuil. Donc oui, elle avait besoin d'y aller. Mais là, c'est la preuve que c'est accessible PMR tout le lieu. Mais comme les gens ne sont pas formés, c'est validiste. Donc l'accessibilité, c'est aussi se former tout le monde. Je peux vous continuer ça pendant 2 heures. Hein. J'ai une formation d'une heure et demie sur...
Moi, j'avais envie de rajouter quelque chose sur la question de la temporalité. Hein. Quand on a préparé un peu l'émission tout à l'heure, on se disait ça. Et ça rejoint un peu ce que tu dis. Quand tu dis, quand on est valide, on peut assurer 3 heures de réunion. En fait, je pense que quand on est valide, on ne devrait pas assurer 3 heures de réunion sans pause. Et que, en fait, ce qu'on apprend aussi... Enfin, ouais, ce qu'on expérimente dans nos corps quand on est malade, c'est aussi la déformation de la temporalité. Et que... En fait, on est aussi vraiment dans un truc... Enfin, on est dans un monde hyper capitaliste et productiviste. Et que bon, eh ben, nous, en fait, on est tellement empêchés qu'on est bien obligés de baisser nos rythmes et tout. Mais que tout le monde devrait faire ça. Et on voulait rebondir là-dessus par rapport aux soins, au care. Voilà.
Alors, est-ce que vous voulez répondre maintenant sur le soin ? Vous voulez en parler maintenant ?
Oui, allons-y. Du coup, sur le soin, ce qu'on avait envie de partager, c'était le fait justement que on a tendance à se dire que rendre service ou soutenir quelqu'un de malade, ça peut être de passer une heure pour faire les courses ou pour faire à manger. Bon, même si la plupart des gens ne pensent même pas faire ça. Mais qu'en fait, nous, ce qu'on constate au fur et à mesure des années, c'est que prendre soin, en fait, ça ne peut pas se faire réellement entre une réunion, une sortie à la mer et aller au travail, et que du coup, en fait, les personnes qui arrivent vraiment à aider quand on est en état sévère de maladie, en tout cas, c'est des personnes qui vont réussir à, elles aussi, s'extraire de cette temporalité productiviste. Et c'est très, très difficile parce que c'est vrai que nous, on est contraints de le faire, on n'a pas le choix. Mais du coup, il y a des gens qui ont le choix de le faire ou pas. Et du coup, la plupart du temps, on est tellement pris dans cette société productiviste qui valorise le fait de faire 15 000 trucs et tout, que la plupart des gens n'arrivent pas à en sortir. Mais en fait, voilà, nous, on est arrivé à ce point de conclusion que c'est très proche en fait d'expériences de parentalité et d'enfants très jeunes aussi qui vont être aussi dans d'autres rythmes et en fait on peut pas prévoir les choses à l'avance du coup on va complètement perdre le fil de cette société qui va très vite aussi bien quand on est parent à de petits enfants et que quand on est malade et voilà.
Merci, c'était très clair.
Et alors, c'est évoqué dans tout ce que vous venez de raconter un peu, mais est-ce que vous pouvez préciser un peu comment les luttes féministes et anti-validistes se rejoignent et se font écho ?
Eh bien... j'ai dans la tête tout ce que j'ai posté sur Insta, sur le Insta des Dévalideuses depuis une semaine. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire qu'il y a deux approches en parallèle. D'un côté... C'est très lié, parce que les luttes féministes, pour moi, et les luttes antivalidistes, c'est la même chose. C'est de dire déjà mon corps, mon choix, et ensuite de problématiser à échelle un peu socio-économique des enjeux très intimes. Donc c'est l'intime et politique, c'est un slogan féministe qui est en fait très antivalidiste. Donc ça, c'est l'endroit de jonction. Et après, l'endroit où il faudrait qu'il y ait de la jonction, c'est dans la prise en compte des spécificités que rencontrent les minorités minoritaires. On nous fait plein de signes qu'on s'arrête.
Oui. Et du coup, nous, on voulait juste terminer, excusez-nous, on ne voulait pas vous couper ou quoi, mais c'était surtout aussi pour... Déjà, il y a quelque chose d'important, c'est de savoir où est-ce qu'on peut vous rejoindre ou vous joindre, si on veut participer au moins, de saisir cette occasion pour donner ce genre d'informations.
Bon, pour les dévalideuses, vous pouvez adhérer à l'association sur notre blog, lesdévalideuses.org. Vous pouvez nous suivre sur des réseaux sociaux, Blue Sky, YouTube, Twitch, Insta. Et vous pouvez, en adhérant, vous pouvez lire notre blog et vous pouvez, en adhérant, rejoindre le Discord. Et tout ça, c'est en ligne. Après, de temps en temps, à l'occasion, on intervient, on tient des stands, mais principalement, c'est du numérique.
Merci. Et pour notre collectif marseillais?
Oui, nous, on n'a pas vraiment de... Enfin, on est désolé, là, on ne peut pas donner de manière de nous contacter. Et en plus, on ne sait pas... Enfin, là, on a fait ça, mais voilà, on est un bébé groupe et on ne sait pas trop c'est quoi notre avenir. Et bon, bah, si les personnes sont à Marseille, sans doute que si on fait quelque chose, elles seront au courant de plein de manières différentes. Mais là, on ne peut pas trop répondre.
Et on peut aussi proposer peut-être à des personnes concernées qui souhaiteraient au moins avoir des informations, d'écrire
à infochoisie@radiogalère.org.
Et nous vous transmettrons les informations et vous en ferez bien ce que vous voulez. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant de passer à ce qu'on avait prévu? Parce qu'on a fait un petit moment ressources pour les sujets qu'on a abordés aujourd'hui.
Si, peut-être quand même sur le... Parce qu'en fait, demain, c'est le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes, des minorités de genre. Il faut vraiment que le mouvement féministe comprenne que les personnes qui subissent le patriarcat et le validisme vivent des situations hyper spécifiques. Et les enfants handicapés sont 3 fois plus victimes d'inceste que les enfants valides. Les femmes handies vivent... 39% des femmes handies vivent des violences conjugales contre 19% des femmes valides. En fait, il y a des chiffres comme ça qu'il faut absolument comprendre et comprendre les spécificités. Un des slogans, c'est « assez femmes pour être violées, trop handies pour être crues ». Il n'est pas super, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont violées. Mais quand même, c'est essentiel de comprendre cette spécificité-là. Et du coup, j'invite tous les gens qui veulent être féministes à lire. Nous, on produit plein de contenu pour justement que chacun s'outille. Et voilà. Et là, je pense qu'il faut vraiment qu'on lutte ensemble contre les institutions. Okay. On a compris avec Bétarame un truc. C'est pareil pour les gens handis. Il y a plein d'institutions handis en France.
Mmh. Et juste pour abonder dans ce sens, c'est aussi dire qu'en fait, il y a plein de personnes qui vivent ou qui ont vécu des violences sexuelles qui sont aussi malades, enfin, ouais. qui ont des maladies chroniques et qu'en fait on meurt pas juste, enfin il n'y a pas juste les féminicides en fait, enfin on prend cher aussi pour le reste de nos vies à des endroits et que ça c'est encore assez peu parlé.
Le trauma handicap complètement, ouais, voilà. Les violences, discrimination handicap complètement, le racisme aussi handicap très violemment.
Justement, c'est ce qu'on a dans nos ressources, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant et je laisse la parole à mes amis.
Moi, j'allais glisser techniquement un truc, c'est que les studios de Radio Galère sont accessibles PMR pour des enregistrements. On en a déjà fait, même si c'est pas pour Radio Galère. Du coup, voilà, l'info est passée.
En tout cas, on voulait vous remercier vraiment chaleureusement d'être venu jusqu'à nous. C'était vraiment précieux d'avoir vos témoignages et vos récits. Du coup, là, on va vous lister quelques ressources que nous, on a repérées parmi... Il y en a plein d'autres. Et c'est une petite sélection. On les remettra sur le lieu du podcast de l'émission. Donc, en brochure sur le validisme, on avait une parution des Handicapés méchants, journal sur les luttes handies par des personnes handies. Pourquoi avons-nous besoin d'un féminisme sourd ? Trouvable sur infokiosque.net comme la précédente. Toujours sur infokiosque, la culture du valide occidental. Un podcast d'une personne de handicapée méchante, une femme par-delà le handicap.
Ensuite, on avait sur de l'antipatriarcat, sous le tapis, le pavé. Les violences sexistes dans les milieux militants qui se revendiquent antisexistes et anti-autoritaires. Sur la répression, donc là, ça rejoint plus l'extrait de la camarade tout à l'heure. Petit manuel de défense collective, de la rue au tribunal, toujours sur infokiosque.net. Sbeul ton contrôle policier. Petit manuel d'autodéfense en interrogatoire. En finir avec le placard, recueil de textes de prisonnières politiques LGBT, femmes trans en prison. En podcast, Nous guérir, le gang des gazières, donc des camarades de Radio Galère qui ont fait un plateau radio l'année dernière sur les luttes anti-validistes, qui est vraiment hyper bien pour aller plus loin sur le sujet. Donc trouvable sur le site de radiorageuse.net et de Radio Galère. Carapatage, la transidentité en prison. Et en roman, Nous sommes la poussière, par Plume des Cervès, donc c'est de la science-fiction queer à propos de validisme. Inouï, portrait de femme sourde. Benvenuto, édition bilingue français, langue des signes française. Le théorème de la chaussette, récit roman d'un sourd en fauteuil homosexuel. Voilà, et on arrive bientôt à la fin de notre émission, on va passer à l'agenda.
Et pour conclure l'agenda, vendredi 7 mars, 18h-20h, à la Colorada, expo atelier d'écriture aux prisonnières palestiniennes, présentation d'un livre écrit par une prisonnière politique turque, suivi d'un concert et open mic, c'est au 76 rue Consola.
À 19h, un concert hip-hop en soutien à Manifesten, c'est donc à Manifesten, rue Thiers.
À 19h30, c'est la manif radicale de nuit avec, pour mot d'ordre, antiraciste et antitransphobe. Il y aura une action corée préparée par DQFC en soutien aux Palestiniens et Palestiniennes. Voilà, il y avait une répète aujourd'hui à midi, mais c'est fini.
Demain, samedi 8 mars, donc c'est la grève générale féministe. Toute la journée, les mecs alliés sont invités à aller cuisiner à la DAR pour ramener du miam sur la zone d'occupation féministe après la manif. La DAR, c'est le 127 rue d'Aubagne.
Et il y aura un plateau spécial 8 mars demain à Radio Galère, du coup à partir de 17h sur la ZOF de la Joliette.
Et demain encore, les éditions Wild Project organisent une grande braderie sauvée du pilon de 10h à 16h à la librairie au 12 boulevard national. En parallèle, atelier pancarte pour la manif. Pas besoin d'acheter de livres pour faire ta pancarte et des matériaux seront à disposition toute la journée.
Ouais, super, parce que c'est très rage. À 14h à réformer, on a dit hein, que c'était le départ de la manif à 14h30 par contre.
Il y a un départ à 14h à réformer et un départ à 14h30 au Vieux-Port.
C'est ça que ça veut dire, VP ?
VP !
Oui, VP !
Oh my god ! Donc, la zone d'occupation féministe à partir de 17h à la Joliette avec des stands, ateliers, prise de parole, plateau radio et repas partagés pour la rupture du jeûne. Le plateau radio, on l'a dit.
On a quoi d'autre ? Oula ! Il y a une proge au Vidéodrome
à 20h30.
C'est quoi l'approche alors ?
J'ai tant aimé de Dalila Enadré. Enadré ?
Ouais.
En partenariat avec le média marseillais Clam, donc au 49 cours Julien.
Ouais, on passe à dimanche, alors dimanche.
À partir de 22h chez Sabia.
Il y a quoi ?
Au cours Ju.
Qu'est-ce que
c'est ? Décolonial et antiraciste. On va élever nos voix, danser, prendre la scène et l'espace et fêter les résistances ensemble.
Ah, mais c'est ça, là c'est où on bouge notre boule !
Demain soir ça, à 22h, le 8 ouais. mars.
Et c'est où ?
À Sabia.
Ah, très
sur
bien.
Le cours J toujours.
Est-ce qu'ils ont une entrée PMR ? Ou en tout cas un accès ?
On t'a pas entendu, t'as dit quoi ?
Il y a des marches, et il y a beaucoup trop de monde et
c'est
je
cher.
Peux pas être rabat-joie.
Ah. Oui, mais là on écoute tout le monde, donc ouais. C'est pas de la rabat-joie-titude.
Non, mais en tous les cas, il y a un petit espace à l'extérieur, enfin, je pense, il y a moyen de s'y poser quand même.
Il me semble qu'au centre LGBT de Marseille, à 17h, il y a l'intervention du collectif Soin-Soin, qui est un collectif anti-psy, qui parle d'accessibiliser les luttes, justement. Je pense que ça vaut la peine d'aller écouter.
C'est à quelle heure ?
Ça, c'est demain.
Je pense que c'est demain, le 8, je pense que c'est à 17h, okay. À vérifier sur le programme du centre LGBT, okay. Qui est accessible, PMR.
Merci beaucoup. On finit ?
Ouais. On avait aussi la manif pour la Palestine dimanche à 14h.
Et il y aurait aussi à 14h dimanche un rassemblement au métro des Chartreux, organisé par Marseille Antisioniste, contre la venue des génocidaires. On n'a pas plus d'infos. Ouais. Donc si vous avez des infos, appelez-nous.
En tout cas, on reste connectés. Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
L'agenda n'est pas fini. Il y a des infos de la semaine prochaine, notamment de Radio Galère.
Ah pardon.
Et c'était du coup mardi, il y a deux plateaux en extérieur hors les murs, mardi 11 à la bibliothèque de 5 Avenue avec l'émission La Voix de l'Autre et une émission à la bibliothèque de la Grenade de Que Viva la Musica. Et voilà, n'hésitez et pas à venir.
On a aussi oublié dimanche de 14h à 17h à la Colorada, il y a un atelier linogravure autour de la force féministe qui se fait sur inscription.
Voilà, un agenda bien dodu.
Moi, je dis plus rien.
Merci beaucoup pour cette heure d'émission. Ça faisait plaisir de retrouver les studios.
Super, ouais. Merci beaucoup.
Merci. Et on se dit à la semaine prochaine.
Et oh oui.
Est-ce que les infos choisies vont réussir à revenir?
On espère.
Et en tout cas, on se quitte avec Anna Tijoux.
Génial.
Bisous.
Bisous.
Pamela, Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer y que se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer.